RJB Info, le journal Diana Dacosta, bonsoir.
Bonsoir, il était au centre des discordes, il n'a finalement pas trop perturbé la rentrée des classes. Le port du masque chez les enfants dès la 3H est respecté par une grande majorité des familles, point de situation une semaine après son entrée en vigueur. Viol, contrainte sexuelle, menace, voilà de quoi doit répondre un homme de 42 ans, entendu par les juges à Moutier aujourd'hui. Il s'en serait pris à deux de ses anciennes partenaires. Les détails de l'audience dans un instant. Et de une, Jill Teichmann a obtenu aujourd'hui une première victoire à l'Open d'Australie. La joueuse de tennis biennoise a gagné son ticket pour le deuxième tour en s'imposant devant la Croate Petra Matric. On écoutera sa réaction dans ce journal. Demain, nous nous réveillerons le nez dans le brouillard jusque vers 1200 mètres d'altitude. Des stratus qui devraient se dissiper en partie en cours de journée. Le mercure frôlera les 4 à 5 degrés en pleine, 3 dans les vallons. La rentrée des classes masquées s'est bien déroulée dans le canton de Berne. Alors que la plupart des élèves ont déjà vécu leur première semaine d'école avec la mise en place de la nouvelle mesure, l'heure est au premier bilan. Un premier bilan positif puisque lundi dernier, seule une soixantaine d'élèves a manqué à l'appel en raison du masque dans la partie francophone du canton de Berne. Cela représente moins de 1% des 9500 élèves concernés. On fait le point sur cette rentrée spéciale avec le responsable de l'enseignement obligatoire pour la partie francophone du canton de Berne, Steve Blaisy.
Alors comme vous le mentionnez, c'est une rentrée un peu spéciale avec les masques, on dit une rentrée masquée comme on a dit. Elle s'est très bien déroulée, malgré quelques protestations qui ont eu lieu pendant les vacances et puis encore le dernier dimanche avant la rentrée, mais avec beaucoup de dialogue et puis beaucoup de travail des enseignants et puis des directions d'école, les parents ont joué le jeu et puis les enfants sont venus à l'école en respectant les règles mises en place.
Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de personnes qui ne se sont pas présentées au cours la semaine dernière ?
Alors oui, dans la partie francophone, j'ai sondé un petit peu les deux inspecteurs qui, je les remercie aussi au passage, qui font un excellent travail, ont chiffré à peu près une soixantaine d'élèves qui manquaient le premier jour dû au masque. Mais après, les directions d'école ont fait un travail remarquable et puis on sont allés discuter avec les parents. Puis le lendemain, il y en manquait un, voire deux.
Des propos recueillis par Alexandre Michler. Et côté effectif, la situation est pour l'instant bien gérée dans la partie francophone du canton de Berne. Il y a pour l'heure peu d'enseignants qui manquent à l'appel en raison des quarantaines et il existe des solutions de secours au cas où la situation venait à se dégrader. L'une d'entre elles est de faire appel à des étudiants de la HEP Béjune. Un homme de 42 ans accusé de viol, contrainte sexuelle ou encore menace. Il comparaissait aujourd'hui devant les juges à Moutier. Il aurait commis ses actes à l'encontre de deux de ses ex-compagnes. Les versions sont plus que divergentes, c'est le moins que l'on puisse dire après cette première journée de débat, Olivier Zano.
Oui, ce sont les deux victimes présumées qui ont ouvert le bal des auditions ce matin. La première, mère de l'enfant du prévenu, a parlé d'un conjoint très insistant, trop insistant sur le plan sexuel. Une situation qui a dégénéré malgré de multiples refus. La notion de viol conjugal lui a été présentée. Elle a concédé aujourd'hui en avoir été la victime, peut-être même à plusieurs centaines de reprises durant leur relation, selon elle. Mais c'est la seconde partie plaignante qui a lancé la présente procédure en portant plainte. Elle a été la compagne suivante du prévenu et elle aussi fait état d'une personne potentiellement violente qui avait sur elle une forte emprise psychologique. La jeune femme a témoigné en sanglots. Elle a dit avoir peur de représailles. Le dossier contient d'ailleurs plusieurs messages de menaces écrits par le prévenu. Et le prévenu, justement, nie la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés. Il se pose même en victime. Les deux plaignantes se connaissent. Elles auraient conspiré contre lui. L'homme se décrit comme un hypersensible, certes à tendance bipolaire. Il est d'ailleurs suivi psychologiquement, mais pas de paranoïa. Selon lui, il se sent trahi, regrette que les gens mentent, même s'il a lui-même trompé chacune de ses compagnes. Et surtout, il se défend d'être un violeur. Il faut être cinglé pour faire l'amour à quelqu'un avec de l'agressivité, a-t-il déclaré.
Merci Olivier. Le procureur n'a pas goûté à cette version des faits. Il a requis cet après-midi une peine de 42 mois de prison ferme, le tout assorti d'une peine pécuniaire avec sursis. Un réquisitoire qui a d'ailleurs provoqué la colère du prévenu. Ce dernier a dû être évacué de la salle. Le jugement devrait être rendu le 25 janvier. Le loup fait son grand retour au palais fédéral à Berne, 16 mois après la votation populaire sur la révision de la loi sur la chasse. Le peuple l'avait rejeté à 51,9%. Une large majorité des parlementaires demande d'adapter la loi pour mieux réguler un prédateur dont les effectifs ne cessent d'augmenter. On compte désormais près de 150 loups en Suisse. Reste à déterminer comment réguler cette espèce protégée, qui doit décider des tirs de régulation. Faut-il autoriser des tirs préventifs? La commission de l'environnement du Conseil national se penchera sur ces questions demain. Pour la conseillère nationale fribourgeoise du centre, Christine Bulliard, présidente du groupement pour les régions de montagne, il faut, comme elle le dit, passer à l'acte et réguler fortement.
On doit réguler la question du loup, on le sait, le loup il apparaît partout, il y a une augmentation de son existence parmi les humains, je dirais, énorme, et c'est pour cela qu'il faut vraiment passer à l'acte. C'est important que les cantons qui vivent avec le loup et cette problématique puissent avoir quelque chose à dire, mais après bien sûr toujours avec l'autorisation de la Confédération. Je pense que c'est difficile d'apprendre à vivre avec lui, parce qu'il fait du tort, hein. Je pense là au tourisme, je pense à la page où on aura bientôt beaucoup de soucis de trouver encore quelqu'un qui va aller avec ses bêtes à l'alpage parce que le loup fait trop de dommages. On doit pouvoir avoir la possibilité de passer à l'acte si le loup fait davantage de dommages.
Pour les vainqueurs de la votation de septembre 2020, on veut bien un peu plus de régulation du loup, à condition de le faire avec raison et de profiter de la révision de la loi sur la chasse pour mieux protéger d'autres espèces menacées. Pour le conseiller national vert valaisan Christophe Cliva, des lignes rouges ne doivent pas être franchies. Seule la Confédération peut par exemple accorder les autorisations de tir.
La question du canton, c'est clairement une ligne rouge pour moi, parce que c'est pas une espèce qui peut être régulée canton par canton. On voit bien qu'elle a une diffusion qui est largement intercantonale et qu'on doit vraiment gérer ça au niveau national.
Le tir préventif, là aussi, on peut imaginer qu'il y a des lignes rouges.
C'est vraiment aussi une potentielle, en tout cas, ligne rouge. Je pense que c'est un petit peu dangereux de rentrer dans cette logique de tirer avant qu'il commette des dégâts. En même temps, moi, je suis pas complètement fermé à ce type de discussion. Si on pose des cautèles et surtout aussi un accompagnement scientifique sur à quel moment ça peut faire sens ou pas. Et puis aussi, évidemment, j'espère d'avoir du côté opposé, si on veut, une ouverture justement sur une meilleure protection des espèces qui sont menacées aujourd'hui.
Des propos recueillis par Serge Hubin, la commission parlementaire mène une discussion générale. Elle adoptera une initiative parlementaire. La transcription dans la loi fera l'objet d'un nouveau débat dans quelques mois. Les cas de grippe semblent augmenter en Suisse. Ce sont les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant la première semaine de janvier, les médecins ont rapporté 20 cas d'affection grippale pour 1000 consultations. Les données doivent toutefois être interprétées avec prudence. Les symptômes grippaux et ceux du Covid-19 étant très similaires, une hausse des affections grippales peut être en partie due à celle des cas Covid. Éric Zemmour, une nouvelle fois condamné. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle a été déclaré coupable aujourd'hui de provocation à la haine par le tribunal correctionnel de Paris. Il avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, assassins et violeurs en 2020. Retour avec Thomas Berbera sur les multiples démêlés du polémiste avec la justice.
Sa récente condamnation vient s'ajouter à une liste qui compte déjà 16 dossiers judiciaires, dont voici quelques exemples. En mars 2010, il déclare sur un plateau de télévision que, je cite, « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes ». Première et jusqu'ici seule condamnation définitive pour provocation à la haine raciale, 10 000 euros de dommages et intérêts. En mai 2018, il est condamné pour des propos islamophobes tenus sur la chaîne France 5. Un premier recours est rejeté, un deuxième est toujours en cours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. En septembre 2020, il est reconnu coupable d'injures et provocation à la haine pour son discours un an avant à la Convention de la droite, mais est relaxé en appel. A noter que Zemmour a déjà annoncé sa volonté de faire appel de sa dernière condamnation.
Les explosions à Abu Dhabi ont fait 3 morts et 6 blessés. La police de la capitale des Émirats arabes unis faisait état ce matin d'un incendie qui a provoqué l'explosion de plusieurs camions-citernes transportant du carburant. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits seraient probablement liés à des drones.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h10.
Sport. Gilles Teichmann décroche la première victoire de sa carrière à l'Open d'Australie. Quelques heures après Belinda Bencic, la joueuse de tennis biennoise s'est aussi qualifiée pour le deuxième tour de la première levée du Grand Chelem. Elle a dominé la Croate Petra Martic 6-3, 6-3. La gauchère a perdu son service dès le premier jeu du match, mais n'a ensuite plus concédé le moindre break pour survoler les débats en 75 minutes de jeu à Melbourne. Gilles Teichmann.
Beaucoup de choses spéciales. Aujourd'hui, c'était ma première victoire de 2022. Donc ça, c'est toujours bien. C'était tellement important de retourner bien parce que Petra sert très bien, elle est très grande. Elle est aussi bonne au filet. Donc, ce n'était pas toujours facile, mais j'ai bien réussi de retourner long. Donc, elle ne pouvait pas faire un peu son jeu. Et voilà, je suis très contente.
Des propos recueillis par Helen Scott-Smith, Gilles Teichmann défiera mercredi au deuxième tour la Biélorusse Victoria Azarenka, titrée à deux reprises à l'Open d'Australie. Pour sa part, Belinda Bencic en découdra avec l'américaine Amanda Anisimova. Demain, ce sera au tour de Stéphanie Feguelet et de Victoria Golubic de faire leur entrée en lice à Melbourne. L'argovienne en découdra avec la russe Daria Kazatkina vers 3h30 du matin, heure suisse. Tandis que la zurichoise affrontera la chinoise Shuai Tsang vers 5h30. Dans le tableau masculin, Henri Laaksonen aura les honneurs de la Rod Laver Arena. Le Chafouzois sera opposé aux alentours de 4h30 du matin au russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial. Le volley Franche-Montagne affrontera une équipe de Ligue A en quart de finale de la Coupe de Suisse. Il a hérité de Quentin Chafouz après le tirage au sort qui a été effectué aujourd'hui. Les Jurassiennes recevront les Alémaniques le dimanche 30 janvier à Seignelégier. Avec deux matchs de moins au compteur, Quentin Chafouz occupe actuellement le troisième rang du championnat avec 7 points d'avance sur le VFM qu'il avait dominé 3-0 lors du premier duel de la saison. L'équipe de Suisse de football disputera son premier match de l'année à Wembley. La sélection de Murat Yakin se frottera à l'Angleterre le 26 mars dans le mythique stade londonien avec un coup d'envoi à 18h30 heure suisse. Elle accueillera 3 jours plus tard le Kosovo au Letzigrund de Zurich à un horaire qui reste encore à déterminer. La Nati est supposée préparer ses deux premiers matchs de l'année à l'occasion d'un camp dans le sud de l'Espagne à Marbella. Pour autant que la situation sanitaire le permette, elle connaîtra ses adversaires du mondial au Qatar dans la foulée de ce rassemblement. Le tirage des groupes est prévu le 1er avril. Coup de froid sur les Jeux Olympiques de Pékin. Le comité d'organisation annule la vente de tickets au grand public en raison d'une situation épidémique compliquée à moins de 3 semaines du début des épreuves. L'annonce a été faite aujourd'hui. Il était jusqu'ici prévu que seules les personnes résidant en Chine puissent acheter des billets pour ces joutes qui se tiennent du 4 au 20 février. Les spectateurs venant de l'étranger n'avaient déjà aucun moyen d'assister aux compétitions. On ne parle toutefois pas de huis clos, Émilie Momentaler.
Le comité d'organisation des JO de Pékin a décidé d'ajuster le plan initial et d'organiser la venue de spectateurs sur les sites de compétition. Il n'a toutefois pas précisé comment ces personnes seront sélectionnées, ni si elles devront effectuer une quarantaine avant de se rendre dans les stades et au bord des pistes de ski. Selon certaines sources, des invitations pourraient notamment être données à des fonctionnaires ou à des employés d'entreprises publiques. La capitale chinoise a lancé la semaine dernière son concept de boucle fermée. Cette bulle sanitaire doit empêcher tout contact direct entre ses futurs résidents, soit les sportifs et autres personnes gravitant autour des Jeux et la population chinoise.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écoutée. Excellente soirée avec RJB.